Merci de choisir Radio Ndekeluka pour vous informer. Il est 13h, le journal, c'est avec Martial Steve Mbetisinga. Martial, bonjour.
Bonjour Nina Verdian-Yaboudi, bonjour à tous. On se dirige peut-être vers la réglementation des barrières afin de limiter la plainte des usagers. Le comité interministériel chargé de la relecture des textes juridiques fixant les barrières illégales en Centrafrique a lancé ses activités aujourd'hui. Human Rights Watch charge de nouveau Hassan Bouba, le ministre centrafricain de l'élevage, qui prend la justice pour cette organisation de défense des droits de l'homme. Si la justice devait être faite en RCA, elle devrait commencer par ce membre du gouvernement. À Bria, dans la Haute-Coteau, la MINUSCA parle d'un bilan positif de sa stratégie militaire, surtout avec le déploiement de troupes à Samwanja et les multiples patrouilles pour protéger la population. Les habitants, eux, dénoncent la persistance de l'insécurité dans certains villages. Sport basketball, un match en retard du tournoi de pré-saison de la Ligue de Bangui est prévu cet après-midi à 16h au Palais des Sports. Elle opposera Bangui Sporting Club, champion en titre, à AS Mazanga.
Le comité interministériel chargé de la relecture des textes juridiques fixant les barrières légales en Centrafrique a lancé ses activités aujourd'hui à Bangui.
Ce comité dispose d'un mois pour faire des propositions aux autorités pour réguler les contrôles sur les barrières. Elle devra également définir le nombre de barrières et démanteler celles qui sont illégales. La première réunion de ce comité interministériel a eu lieu ce matin. François Koussimi Palato.
Il s'agit pour le gouvernement centrafricain de procéder au démantèlement des barrières illégales et de réguler le fonctionnement des barrières légalement établies afin de trouver des moyens d'accompagnement pour permettre à la population centrafricaine de s'en sortir face à l'augmentation des prix des hydrocarbures. Hervé Ndoba, ministre des Finances, au sortir du lancement des travaux du dit comité.
C'est une question très importante dans le cadre de notre dispositif, eh bien, de pouvoir traiter définitivement cette question qui, vous le savez, est un fléau eu égard non seulement aux rackets qui se passent à ces différentes barrières illégales, mais également à toute la taxation des services qui ne devraient pas exister au niveau de ces barrières. Nous sommes véritablement engagés avec un nombre important d'experts autour de cette table qui vont poursuivre le travail pour permettre véritablement de nous sortir une méthodologie, une relecture des textes que nous avons, qui fixe les barrières, et tout cela sera ramené au collège des ministres parties prenantes à ce comité interministériel pour que nous puissions prendre une décision et ensuite matérialiser par des actions sur le terrain des décisions que nous prendrons pour pouvoir définitivement éradiquer ce fléau.
La prolifération des barrières, les rackets, font des causes de la hausse des prix sur le marché. Ces pratiques ont suscité le mécontentement ces derniers jours des conducteurs de camions et de motos. Le mois dernier, les conducteurs de mototaxi ont manifesté pour dénoncer le comportement des gendarmes sur la barrière de Zila et les conducteurs de camions déplorent de plus en plus le paiement des taxes sur les barrières durant leur voyage.
Une semaine après la visite de la Direction générale des douanes à Biloko, une mission conjointe de la MINUSCA et de l'état-major des armées centrafricaines était hier dans cette ville de la Nanamambéré.
Ces personnalités ont évalué le besoin après l'attaque du poste de douane de Biloko et entendent renforcer les dispositifs sécuritaires dans la zone. Notre correspondant Ono Richard Mundunguru, qui a suivi cette délégation, nous en dit plus.
Cette délégation, conduite par le chef d'état-major des forces armées centrafricaines, Zéphirin Mamadou, et la chef de la MINUSCA, Valentine Rougouabiza, a visité trois sites. D'abord, le poste de douane qui a subi l'attaque du 21 janvier dernier. Ensuite, le site de transfert des épaves des camions et marchandises incendiées et la plateforme douanière en construction. Après cette visite, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RCA évoque deux besoins d'urgence, Valentine Rougouabiza.
Il y a les besoins des services de douane pour pouvoir retourner la douane, être fonctionnelle, en répondant en même temps aux besoins sécuritaires. Avec le chef d'état-major et avec le leadership de la force de la MINUSCA, nous avons pu ensemble identifier quelles étaient les vulnérabilités en matière de sécurisation du service de douane. Et sur ces vulnérabilités, nous allons apporter des solutions immédiates en travaillant ensemble. Les questions de sécurité, vous savez qu'on ne va pas en détail dans les médias.
De son côté, le chef d'état-major des armées rassure la population sur le renforcement des dispositifs sécuritaires à Biloko. Zéphirin Mamadou.
On a déjà renforcé nos hommes, notre position des forces de défense et de sécurité également de la MINUSCA. Dorénavant, on doit travailler main dans la main. Il ne faut pas qu'il y ait des ruptures. Notre mission à venir, c'est de mettre hors état de nuire ces terroristes, ces bandits, ces saboteurs. Et je le confirme, on va utiliser tous les moyens possibles pour les détruire. Et je me répète qu'on doit les détruire.
Signalons que les douaniers de Béloko ont repris leurs activités, même si les travaux de réhabilitation du poste des douanes se poursuivent. Plusieurs véhicules transportant des marchandises traversent la frontière centrafricano-camerounaise pour venir faire leur formalité douanière à Béloko. Honoré Richard Mundongoro, Béloko, Radio Ndékéluka.
Venons-en à cette réaction de Human Rights Watch sur la volonté du ministre centrafricain de l'élevage, Hassan Bouba.
Dans une sortie médiatique lors de sa mission à Gakobo dans la Waka au centre du pays, le membre du gouvernement recommande la justice pour les victimes. Mais ce vœu n'est pas bien accueilli par Human Rights Watch. Cette organisation de défense des droits de l'homme estime que la justice doit commencer par lui. C'est la substance d'un rapport intitulé « Le summum de l'impunité en République centrafricaine ». Lewis Moj est le directeur Afrique de Human Rights Watch, il est avec Jean-Fernand Kouina.
De la visite la semaine passée de monsieur le ministre Hassan Bouba dans la Waka. Pendant son visite, il a fait une conférence de presse. Il a demandé la justice pour les violences faites par les groupes armés. Nous, à Human Rights Watch, on est tout à fait d'accord. Notre recommandation au niveau de le gouvernement, c'est de commencer avec lui-même. Donc, c'est un moment très ironique pour nous à Human Rights Watch de voir Hassan Bouba, le numéro 2 au sein de l'UPC, le groupe armé de UPC entre 2014 et 2017, en train de demander la justice à Ngakobo. Il faut rappeler, nous à Human Rights Watch, on est allé à Ngakobo plusieurs fois. On a causé avec les victimes de la violence faite par l'UPC à Ngakobo, y compris les actes de tuerie de civils. Et donc, nous avons décidé de publier cet document pour rappeler au monde que, tout d'abord, M. Bouba, il était parmi les leaders de UPC, et secondo, qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui de la CPS. Au niveau de la CPS, ça veut dire qu'il a déjà lui arrêté en fin de 2021. Si M. Hassan Bouba souhaite la justice, on commence par lui-même.
Et puis Martial, la montée des vols armés inquiète de plus en plus les habitants de Boeing de la commune de Bimbo 3.
Oui, Verdiane, dans la nuit de lundi, un commerçant a été braqué par des hommes en armes. Ils l'ont torturé avant d'emporter ses biens. Les habitants de Boeing qui se disent dépassés appellent à l'aide. Idalo Tindiko s'est rendu hier dans ce secteur. Voici son récit.
À en croire les habitants de Boeing, il ne se passe pas une nuit sans qu'un vol à main armée soit enregistré. Les cibles sont ceux qui font de petits commerces ou qui disposent d'un peu de moyens. Cette situation replonge les habitants dans la psychose malgré la présence des militaires. Selon les témoignages, les malfrats opèrent avec des barres de fer avec lesquelles ils défoncent les portes. Jean-Ghislain Feidanga, une victime torturée par ces hommes en armes dans la nuit de lundi, en témoigne.
Ils étaient quatre malfrats. Ils nous ont torturés, ma femme, mes enfants et moi. Ils m'ont agressé avec une machette avant d'emporter ma moto, ma batterie, mon boomer et d'autres objets. Je demande au président de la République de veiller sur notre sécurité à Bimbo 3. À 20h, on nous vole, on ne peut pas se débrouiller. Ils viennent régulièrement le soir braquer les gens, on ne sait quoi faire.
Marie Zongodo, chef de la cité Ngoukouron, ne comprend pas pourquoi les braquages sont récurrents alors que des militaires sont déployés dans le secteur.
Ici à Boeing, il y a des militaires, mais le vol à main armée est récurrent dans les quartiers. Mais pourquoi les militaires n'interviennent-ils pas? Nous vivons avec la peur au ventre. Vraiment, nous sommes inquiets de l'insécurité grandissante dans le secteur. Voilà pourquoi nous demandons qu'on nous envoie des policiers et gendarmes pour notre sécurité, parce que les FACA n'assurent pas notre sécurité.
Face à cette situation d'insécurité, les autorités locales de Boeing entendent mettre en place un plan de sécurisation de leur secteur.
Pendant ce temps à Bria dans la Haute-Coteau, le bureau de la MINUSCA du secteur Est a évalué la semaine dernière ses stratégies en matière de la protection des civils.
Effectivement, évaluation faite en présence de 10 députés des régions de la Haute-Coteau, de la Wakaga, de la Waka, de la Basse-Coteau et de Bangui. Gasmala Mustapha était présent lors de la présentation du bilan.
L'évaluation a eu lieu non seulement en présence des élus de la nation, mais aussi des représentants des sous-préfectures de Wadamaïkaga, de Wandjakoto, de Yalinga et de Bria. La rencontre a permis à la MINUSCA de montrer ses réalisations dans la préfecture de la Haute-Côte, surtout la protection des civils et le plan de sécurisation en cours. Les participants n'ont pas manqué de souligner la persistance de l'insécurité dans certains villages de la Haute-Côte. Sylvain Max Balinda, député de Bria 1, salue lui les efforts de la MINUSCA, mais il souhaite que le dispositif sécuritaire soit renforcé dans les localités où la vie de la population est menacée.
Les actions réalisées par la MINUSCA dans la ville de Bria m'ont enthousiasmé. Elle a construit des bâtiments et elle est intervenue dans plusieurs domaines. Nous lui demandons de faire autant en cette année 2023. Il y a beaucoup de personnes à Ibando, Baidu, Muka, Gunja, y compris Bangorom. Nos parents qui sont là-bas souffrent. Il faut que la MINUSCA aille là-bas pour les soutenir.
La MINUSCA, de son côté, a jugé son bilan positif, surtout avec le déploiement de troupes à Samwanja et les multiples patrouilles pour protéger la population. À propos de l'insécurité dans certaines localités, le chef du bureau de la MINUSCA du secteur Est, Baradjeng, donne une réponse.
Actuellement, nous sommes en train de préparer des missions de longue durée sur Aïbando, sur Yalinga, etc. Malgré les défis que nous avons, comme par exemple le défi du ferry qui n'est plus fonctionnel et qui ne nous permet pas véritablement de traverser la rivière Koto comme on l'aurait souhaité.
C'est la toute première rencontre de l'année entre la MINUSCA, les leaders communautaires et les 10 élus des préfectures de la Haute-Côte, Basse-Côte, Vaka, Waka et de Bangui. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
Actualité africaine en bref, le pape François dénonce un génocide oublié lors de son discours hier en RDC.
Une dénonciation faite hier au premier jour de sa visite dans le pays, un génocide dont les populations de l'Est de la RDC sont victimes depuis plusieurs années. Il a par ailleurs plaidé pour la convergence des forces afin de promouvoir la paix et la réconciliation dans le pays. Le pape François a également plaidé pour des élections libres, transparentes et crédibles qui devraient se tenir en décembre. Dans la suite de son périple, le chef spirituel de l'Église catholique va rencontrer cet après-midi des victimes de violences dans l'est du pays.
Et puis l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, alerte sur le niveau de malnutrition en Somalie.
C'est après une visite qui a pris fin lundi dernier. Le pays a failli être déclaré en famine l'année dernière. Selon l'ambassadrice, après 5 saisons des pluies faibles, la Somalie pourrait cette fois ne pas y échapper. Linda Thomas-Greenfield a déclaré vouloir intensifier les efforts pour prévenir un nouvel épisode de famine cette année. Elle a donc annoncé l'octroi de plus de 40 millions de dollars de financement pour répondre aux besoins humanitaires en Somalie. Bienvenue, Bélo est avec nous en studio et c'est pour la page sport. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, Martial, Steve, Betty Singa, bonjour à tous.
Basketball, un match en retard du tournoi de pré-saison de la Ligue de Bangui est prévu cet après-midi à 16h au Palais des Sports.
C'est un match à rejouer entre Bangui Sporting Club, champion en titre, et l'AS Mazanga. Ce match a été suspendu dimanche à cause d'un nouveau joueur de Bangui Sporting Club qui a été aligné sur le terrain alors que les démarches de mutation se poursuivent. Robert Pangbalé, premier vice-président de la Fédération Centrafricaine de Basketball, dans les raisons de cette suspension avec Claire Assambadinga.
On a demandé à la Ligue de suspendre la mutation. En attendant de relancer les activités, le comité de relecture va faire son travail. Après ce malentendu au cours de match BSC AS Mazanga, la fédération s'est réunie avec la direction technique et on a décidé que toutes les mutations pour le moment sont suspendues. On maintient par rapport au texte qui a été déjà pris avant. Et les joueurs doivent rester dans leur club de la saison passée. Toutefois, ces joueurs peuvent décider de ne pas participer au tournoi. Et les joueurs libres ne sont pas autorisés à participer au tournoi de la pré-saison.
Football, le championnat des jeunes de la Ligue de Bangui reprend le 11 février.
Le championnat des jeunes a été suspendu à cause des multiples forfaits enregistrés. Selon les responsables du football des jeunes, toutes les dispositions sont déjà prises. Jean-Noël Badela, président de la commission des jeunes, avec Claire Assambadinga.
Je profite de l'opportunité pour annoncer à tous les amis sportifs fanatiques du football que le football des jeunes qui a fait la gloire de notre pays, il y aura la reprise effective à partir du 11 février 2023. Ce que nous attendons d'abord de la part des clubs et des dirigeants, c'est d'apprêter et préparer également leurs joueurs par rapport à l'engouement qui s'articule autour maintenant de notre football. Vous êtes sans ignorer que grâce à ce secteur également du football, qu'on ne pensait pas que la gloire, l'éloge de notre pays pouvait également ressurgir de ce côté, a fait maintenant l'honneur de notre pays et ils vont continuer maintenant nos ambassadeurs. Je tire chapeau dans un premier temps à tous les dirigeants des clubs et les principaux acteurs qui sont les footballeurs par rapport à leurs aînés de U20 qui sont qualifiés maintenant pour la CAN, que je profite de l'opportunité pour tirer chapeau, remercier le directeur général de l'UNASPORT qui nous a beaucoup édifiés et a donné son aval avec de bonnes orientations pour que aujourd'hui le football des jeunes puisse se reprendre au niveau du stade de 20 000 places.
Bienvenue, football international, on connaît les finalistes de la 7e édition du Tchan qui se déroule en Algérie.
Il s'agit du pays organisateur, l'Algérie, et du Sénégal qui va jouer sa première finale de cette compétition. Hier en demi-finale, l'Algérie a humilié le Niger 5-0 et le Sénégal a sorti Madagascar 1-0.
Merci à vous, bienvenue. Fin de ce journal de la mi-journée sur Radio Ndeke Luka. Merci pour votre fidélité d'écoute. Tout de suite la version sango de votre journal.